Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue au podcast de la rédaction de Game Info. Et encore cette semaine, un podcast à trois avec Mamie Lamy.
Salut à tous.
Et ATH.
Bonjour la bat de compagnie.
Toujours pas de nouvelles de Mandren, malheureusement. Après être sorti de l'hôpital, bon, on reviendra pas sur le dossier Mass Effect 3, n'est-ce pas? Le monsieur s'est encore rendu en Angleterre. Et malheureusement, Scotland Yard avait gardé son casier. Il lui avait bien dit de ne plus remettre les pieds sur le territoire. Donc bon, Mandren, désolé, mais là, je crois qu'on peut plus faire grand-chose pour toi. Hein. Si tu déconnes comme ça aussi, franchement, à un moment donné, bon. Alors, cette semaine, malheureusement, du côté des indépendants, ça va commencer par un coup de gueule, n'est-ce pas? D'ailleurs, ça sera la seule news indépendante de la semaine. Une semaine bien pourrie, hein, niveau news. Je pense que vous serez d'accord avec moi, messieurs.
Tout à fait.
Cette semaine, je voulais pousser un coup de gueule sur un projet Kickstarter qui s'est lancé, là. En gros, ce projet, c'est un remake de Battle Chess. Alors, vous me direz, mais où est le mal, mon cher tyran? Bah, le mal, c'est que les mecs demandent 100 000 dollars, et même pas pour faire le jeu. Ils demandent 100 000 dollars pour faire un mode multijoueur d'un jeu d'échecs. 100 000 dollars. C'est à un moment donné, il faut arrêter de se moquer du monde, quoi. Ça devient n'importe quoi, Kickstarter. C'est pas non plus la fête du slip, faudrait que les mecs commencent à le comprendre. Je commence à en avoir marre de voir des inconnus qui débarquent, qui demandent des sommes astronomiques et qui n'ont même pas le poil de cul d'un prototype à montrer. Bon, en même temps, Dieu merci, les gens ne leur donnent pas de pognon, mais franchement, je commence à en avoir ras-le-bol. Voilà, c'était mon coup de gueule de la semaine.
Bah, en même temps, c'est un peu normal parce que, comme t'as dit, c'est juste un mode multijoueur dans un jeu d'échecs. 100 000 dollars, ça nécessite pas autant d'investissement pour faire un jeu de ce type en multijoueur. Franchement, là, je suis d'accord sur ton coup de gueule, je te rejoins tout à fait. Et faut qu'ils, voilà, Kickstarter, faites attention au projet auquel vous donnez.
Ouais, surtout que là, je voudrais souligner un truc, c'est que Battle Chess, je rappelle que c'est finalement, ce n'est qu'un jeu d'échecs avec des animations, quoi. Et j'ai envie de dire, déjà à l'époque, au bout d'un moment, les animations c'était rigolo 5 minutes et t'en avais marre. Alors aujourd'hui, franchement, je suis pas convaincu de l'intérêt de la chose, quoi. Des jeux d'échecs avec un mode multijoueur, il y en a des tonnes, donc bon, voilà. Enfin, déjà à la base de projet, je ne suis pas convaincu de l'intérêt, n'est-ce pas? Ensuite, je voulais... Ah non, c'est pas je voulais, là, c'est... on a fait pression sur moi pour en parler. On va parler de Call of Duty. Alors, messieurs, je vous laisse vous démerder avec ça. Qu'est-ce que vous avez à raconter dessus?
Alors, Call of Duty, comme on l'avait dit la semaine dernière, on sait que c'est Black Ops 2. Et là où bah, ça change un peu, c'est que Black Ops 2 se passe dans un futur proche. Donc, ça rejoindrait plus ou moins les Modern Warfare qu'on connaît. Sauf que la news intéressante, et très intéressante même pour un Call of Duty, c'est que il change un peu la vision générale du jeu, c'est-à-dire qu'il donne plus de liberté au joueur pour choisir sa mission et la façon dont il décidera de l'accomplir. Mm. Et ça c'est intéressant parce que Call of Duty c'est quand même plus ou moins la même sauce depuis le tout premier. Et un grand vent de changement comme ça, moi je dis pourquoi pas. Parce que ça commençait sérieusement à s'essouffler.
ATH ?
Déjà que les anciens Call of Duty, je pense que les gens ils l'achetaient pas forcément pour la partie solo du jeu, mais plus pour le multijoueur, parce que le solo, tu sais, bon, il est sympathique 5 minutes, mais tu finis très rapidement. C'est vraiment un jeu sur lequel c'est vraiment c'est comme si c'était un film interactif, quoi. C'est Hollywood dans ta console. Je pense que les gens sont plus intéressés vraiment par le multijoueur d'un Call of Duty qui est plus intéressant sur la durée, et que voilà. C'est bien qu'il change un petit peu parce que tous ces scripts, tout ça, c'est vraiment chiant. Moi, d'ailleurs, franchement, depuis que Call of Duty a annoncé, a commencé à faire un gros carton avec Modern Warfare, et après que tous les FPS ont commencé à copier cette lignée de FPS ultra scriptée, voilà quoi. Franchement, les FPS, maintenant aujourd'hui, j'en peux plus. Alors qu'avant, vraiment, j'aimais vraiment ce genre de jeu, les jeux à monde ouvert comme les Far Cry ou même les premiers Half-Life. C'était vraiment des bons jeux avec un gameplay. C'était pas quelque chose quoi vraiment de scripté, que tout est prévu à l'avance, que l'IA n'a pas évolué d'un iota. Bon, enfin bref, c'est intéressant pour certains types de joueurs, mais moi j'aime pas trop.
Ouais, ça c'est vraiment le point où il va falloir les attendre au tournant, c'est sur l'intelligence artificielle. Et si je devais faire une légère pointe d'ironie comme ça, n'est-ce pas, je dirais que depuis le temps qu'ils n'ont pas bossé sur leur IA, il y a du boulot. Hein. Bah, en même temps, je suis désolé, tu regardes Call of Duty, ce jeu n'a pas d'intelligence artificielle, quoi. C'est pas. Les ennemis sont cons, je suis désolé. Ils viennent s'empaler sur ton fusil à un moment donné, voilà quoi. On va pas me dire qu'il y a une IA dans ce jeu, quoi.
C'est la stupidité artificielle.
Bon, ça c'est un jeu que je vais suivre de très très près. C'est Company of Heroes 2, donc le prochain jeu de Relic. Relic qui, alors moi je le dis, qui pour moi est le meilleur studio faisant des RTS, même devant Blizzard, etc. Pour moi, ce sont les meilleurs. D'un jeu à l'autre, ils trouvent toujours moyen de se renouveler. Ils ont toujours de très bonnes idées. Et franchement, la perspective de revoir donc cette série, je le rappelle, de RTS, qui se passe dans la Seconde Guerre mondiale et qui est vraiment orientée très tactique. J'attends de voir ça avec impatience et j'ai hâte de voir quelles trouvailles ils nous ont dégotées pour ce second opus. Ensuite, nous allons parler de God of War et je crois à TH qu'il y a une histoire de multijoueur là.
Oui, tout à fait. Alors, God of War, c'est un jeu principalement solo, dont tout le monde s'est inspiré par la suite après le premier épisode. Mais là où ça me dérange un petit peu, c'est qu'ils annoncent un peu du multijoueur, comme cette vague de jeux qui nous proposent du multijoueur dans des jeux solo, un peu comme par exemple Bioshock 2, Mass Effect 3,
Max Payne 3, je crois.
Max Payne 3 proposera du multijoueur aussi, ouais. Donc plusieurs jeux qui étaient à la base étaient solo se retrouvent avec du multijoueur. Enfin moi voilà quoi, je suis pas convaincu de la chose vraiment sur ce type de jeu. Bah, apparemment ça sera justifié par le scénario de God of War, mais bon voilà, j'attends vraiment d'en savoir un peu plus sur ce que ça va donner. Je pense qu'à mon avis ça sera pas du tout intéressant parce que avec toutes les expériences qu'on a eues sur ce type de jeu où les jeux qui étaient vraiment solo, ça fait que entacher, moi je dirais que ça fait que entacher la partie qu'ils mettent pour le solo. Et moi je préfère qu'ils mettraient un God of War 4, attention. Vraiment, ils mettent tout le budget sur le solo et qui est pour payer les développeurs, l'équipe et tout, que nous proposer un multijoueur qui va être délaissé au bout de 2 3 jours. Et enfin voilà quoi, c'est j'espère qu'ils me donneront tort, hein. Si ça se trouve le multijoueur ça sera un truc de folie, on en parlera dans 10 ans, mais franchement je pense pas.
Ouais, j'avoue, moi ça me laisse assez perplexe, on va dire. Cette tendance qu'ont les éditeurs à toujours, voilà, dans la checklist, t'as le multijoueur, même si le jeu s'y prête pas, c'est pas grave, il faut absolument un multijoueur. Je sais pas, enfin, j'aimerais bien, tu vois, pour une fois, voir un vrai jeu solo, quoi, où on met pas un multijoueur parce qu'il faut en mettre un, quoi.
Et
ATH?
sinon, donc voilà, bah on en sait un peu plus maintenant sur le solo de God of War 4, que donc on vous parlait la dernière fois dans le podcast. Ce sera bien une préquelle de God of War. On découvrira donc Kratos avant qu'il soit recouvert de ses cendres qui lui donnaient une peau pâle. Et le titre sera donc une moteur améliorée du God of War 3, qui était déjà très beau sur PlayStation 3, mais qui tournait en 720p. Donc je sais pas si on aura pour l'occasion un 1080p, j'en doute un petit peu, mais déjà que le God of War 3 est défoncé pour un jeu PlayStation 3, j'attends de voir ce que ça va donner le God of War 4. J'espère que ça va mettre encore plein la vue, mais franchement j'en doute pas parce que Santa Monica ils sont très forts pour ça.
Ok, bon, on va passer. J'ai envie d'appeler ça la news aberrante de la semaine. C'est une sombre histoire de brevet qui a au final conduit à l'interdiction, oui, vous entendez bien, interdiction de la Xbox 360 en Allemagne. Waouh, mamie?
Oui, mais écoute, moi je trouve ça complètement, j'ai envie de dire, comment dire, pas ironique, mais irréel. C'est complètement irréaliste, surréaliste, voilà, je cherchais le mot, surréaliste. On interdit une console. C'est génial, surtout en Allemagne en plus où il y a un fort potentiel d'acheteurs, malgré le fait que bon la Xbox 360 se fait vieille. Mais je trouve ça complètement surréaliste, notamment aussi, ils n'interdisent pas que Xbox 360, ils interdisent carrément Windows 7.
Pour être précis, ils interdisent Windows 7, Internet Explorer, Windows Media Player.
Voilà. Et moi je trouve ça ouais, voilà, surréaliste, c'est-à-dire qu'il y ait eu des problèmes de brevets, ça c'est leur problème, mais normalement ça se règle à coup de gros chèques. Mais là, interdire, enfin c'est interdire à tout un pays. Un pan complet du divertissement, moi je trouve ça, mais tout simplement, et surréaliste, et complètement, c'est trop quoi, c'est n'importe quoi. Moi je trouve que c'est n'importe quoi, et j'ai entendu dire que Microsoft faisait appel, et heureusement, parce que on n'a pas à interdire aux aux joueurs, par exemple, d'acheter des Xbox 360. Tout ça pour des questions de brevets.
ATH?
Ouais, donc pour revenir à la petite histoire, en fait, c'est le procès qui oppose Microsoft à Motorola pour un vol de brevet apparemment. Mais ce que je trouve stupide dans cette histoire, en fait, c'est que la Xbox arrive en fin de vie. Ça fait 7 ans que c'est maintenant qu'elle est sortie, elle est sortie en 2005. S'il y avait vraiment eu du vol, tout ça, pourquoi ils l'ont pas interdit dès le début et qu'ils se réveillent que maintenant? Genre, oh, on a découvert ça il y a pas longtemps. Ils ont dû faire ça. Je trouve que c'est un peu raté, quoi, leur truc.
Alors, pour être précis, c'est pas qu'ils s'en sont rendus compte maintenant. En fait, c'est pourquoi il y a eu ce litige entre Microsoft et Motorola. Pour comprendre ça, il faut préciser de quoi il s'agit. Alors, ce brevet, en fait, c'est un brevet sur le codec vidéo H264 qui, si ma mémoire est bonne, est utilisé à peu près dans toutes les vidéos aujourd'hui. Enfin, pratiquement, c'est un des formats standards du web, si vous voulez. Le truc, c'est que Motorola s'est réveillé le jour au lendemain et qu'ils se sont rendu compte qu'ils faisaient payer pas cher Microsoft pour ça. Et donc, du coup, ils ont voulu augmenter leur prix. Sauf que, de ce que j'ai compris, ça, dans le droit communautaire européen, c'est pas légal. Donc, Microsoft a essayé de jouer sur ça. Le problème, c'est que en Allemagne, la justice allemande, elle ne fonctionne pas comme ça. Le droit est différent, etc. Donc Motorola en a profité pour attaquer en Allemagne et ils ont gagné. Et en fait, Microsoft est en train de jouer la montre pour essayer de gagner au niveau européen. Donc voilà, enfin, tout simplement, c'est une histoire de gros sous. C'est pas que Motorola, c'est pas que le litige, y avait un litige à voir avec Motorola. C'est juste que ils veulent faire payer plus cher Microsoft et que Microsoft ne veut pas payer plus cher. Et en même temps, H264. Vu que c'est utilisé mais vraiment partout, je comprends qu'ils aient pas envie de se laisser faire. Rien à ajouter, messieurs ?
Non, tu m'as éclairé ma lanterne.
Vous êtes scandalisé, n'est-ce pas ?
Oui.
On va passer maintenant à la news, où je vais un peu troller, moi je vous préviens. Hein. Enfin, c'est une news qui m'a agacé quand je l'ai vue. Enfin... Alors, en gros, The Elder Scrolls Online, ça y est, c'est officiel. Vous me direz, waouh, chouette, bonne nouvelle. Ouais, sauf que entre temps, bah les gens ont déchanté parce que qu'est-ce qu'on a appris ? On a appris qu'en gros, ben au lieu de profiter de sa licence pour proposer quelque chose d'un peu neuf dans le monde du MMO et surtout quelque chose qui ressemble un peu à l'expérience que peut offrir les Elder Scrolls en solo, ils ont décidé de faire un clone de WoW. Avec un moteur qui se trouve être le même moteur que celui de Star Wars The Republic. Donc un jeu qui est clairement n'a pas du tout la même tronche qu'un Elder Scrolls classique. Et qui se rapproche pour le coup vraiment de Star Wars The Republic au niveau du rendu, je trouve. Bah les gens ont tiré un peu à la gueule. Hein. Alors monsieur, qu'en avez-vous pensé ?
Bah je veux commencer, si ça t'embête pas, TH.
Je t'en prie.
The Elder Scrolls. Que dire, c'est un jeu qui a bercé, je pense, pas mal d'entre nous.
Oh oui.
2000 heures de jeu sur Morrowind.
Voilà, donc donc voilà, tout le monde connaît. La nouvelle était tombée comme un miracle. On bosse depuis des années sur un Elder Scrolls Online où on va regrouper tout de Tamriel à Skyrim. On disait génial, génial.
Wow.
Je m'imaginais déjà avec le gameplay d'un Skyrim en MMO et je me suis réveillé le lendemain et j'ai lu qu'en fait non, c'était WoW, WoW dans l'univers de Tamriel, enfin de pas d'Oblivion, de Elder Scrolls et je me dis mais pourquoi ? Alors c'est vrai que d'après ce que j'ai lu, ça chope toutes les bonnes idées actuelles, la narration à la Star Wars. Le jeu, le gameplay à la Terra, enfin, bon, toutes les bonnes idées. Donc, ça risque fort d'être le meilleur MMO, hein, on est d'accord. Mais tout le monde aurait voulu un Elder Scrolls Online, mais vraiment avec le gameplay et tout.
Sauf que la narration, je veux pas faire ma langue de pute, hein, mais la narration, ça a jamais été le point fort des Elder Scrolls. Et si Bethesda savait faire des scénars, ça saurait. Hein. Donc, moi, je veux pas trop casser, mais voilà quoi. ATH.
Enfin, surtout, ouais, bah, comme t'as dit, la narration, c'est pas trop le point fort des Elder Scrolls. Mais quand on joue à un Elder Scrolls, c'est pas pour. A priori, c'est pas pour le scénario. Hein. À chaque fois, c'est le roi, il est mort, ou bien il y a le dragon qui arrive. Enfin, c'est un truc basique, quoi, qu'on en voit partout. Mais c'est vraiment un jeu bac à sable. C'est ça qui est intéressant quand on joue à un Elder Scrolls. C'est vraiment la possibilité d'interaction, tout ce que tu peux faire dans le jeu qui est vraiment immense. Et j'espère que ce côté-là sera pas enlevé dans le MMO.
Mamie, tu voulais rajouter quelque chose?
Enfin, je fais un petit rebond sur la narration. C'est justement s'ils peuvent se démarquer là-dessus et dire ouais, on en est capable. Ils attendaient un MMO pour le faire. Je dis pourquoi pas, sachant qu'il y a d'autres points pas mal et des points qui sont normalement pas des points très très forts pour Bethesda, à savoir bon les graphismes oui, mais c'était toujours un peu pour Hitbug et il y avait toujours des petits problèmes.
J'ai hâte de voir le bêta test,
Bah
ça va être
c'est
drôle.
ça qui est drôle. Mais apparemment pour les premiers screens que j'ai pu voir, ça a pas l'air dégueu du tout pour un MMO.
Précision, donc ce n'est pas Bethesda même qui fait ça, c'est ZeniMax Online. Donc ce n'est, qu'on soit clair, parce que j'ai lu ici et là sur le web, oui c'est scandaleux, ils vont plus faire de jeux solo, etc. Non, 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 non. Le studio qui s'occupe des Fallout et des Skyrim, etc., eux, ils continuent à bosser sur leur jeu. Hein. On est d'accord? Ce sera un jeu vraiment à part. C'est un studio à part qui s'en occupe, etc. Je voulais aussi apporter quelques précisions quant au background de cet épisode online. Parce que là, par contre, où j'ai trouvé ça intéressant, c'est qu'ils ont choisi, je pense, la meilleure période pour faire ce jeu-là. En gros, ça se déroule 1000 ans avant Skyrim, dans une période de l'histoire des Elder Scrolls qui est connue comme l'interrègne. En gros, c'est une période où il n'y avait plus d'empire, avant que Tiber Septim ne refonde l'empire. Et c'est le chaos, c'est le bordel, c'est vraiment un âge qui est considéré comme sombre, où les Daedra en profitent pour foutre le souk. Vous me direz comme d'habitude, mais là, encore plus que d'habitude, n'est-ce pas? Et surtout, c'est un âge finalement sur lequel on ne connaît pas grand-chose. Là où je trouve ça très intéressant, c'est que notamment, c'est à cette époque-là que la Guilde Noire va se faire connaître. C'est entre autres à cause de la Guilde Noire que c'est un peu le gros bordel, parce que voilà, c'est un peu à cause d'eux que l'Empire s'est fait buter, n'est-ce pas? C'est aussi à cette époque que la Camoratong en Morrowind se fait connaître aussi. Donc c'est une période assez intéressante. Maintenant, j'attends de voir ce qu'ils vont faire avec, quoi. ATH?
Ouais, bah moi c'est le jeu là qui sur The Elder Scrolls Online, j'espère que vraiment il arrivera à tirer son épingle du jeu parce que en ce moment les MMO, il y en a des masses qui sortent et pour avoir la visibilité sur ce secteur-là, ça va être très dur, surtout quand il y a World of Warcraft à côté et Star Wars, ça va être un petit peu dur pour eux parce que là tu vas me dire ouais, sur cette génération, on a beaucoup de FPS tout ça, mais les FPS, tu les finis en 4-5 heures. Et après le multi, tu peux toujours aller picorer à droite, à gauche de Battlefield, un peu de Call of Duty. Mais un MMO, c'est vraiment un investissement. On en parlait tout à l'heure un petit peu avant le podcast. On disait comme quoi, quand tu joues à un MMO, tu joues pas à un autre jeu. Là, je sais pas si vraiment il faudrait qu'ils nous proposent vraiment quelque chose d'assez innovant et d'assez gros pour que ça attire les joueurs susceptibles d'adhérer à cette licence.
Mamie?
Oui, pour rebondir strictement sur ce que tu viens de dire, moi j'avais trouvé que Skyrim et ben, tous les jeux, comme tu le disais tout à l'heure, tirant 2000 heures, je crois, 200 heures, je ne sais plus, 2000,
2000 heures de jeu sur
voilà,
Morrowind.
c'est les jeux de Bethesda Softworks, que ce soit Fallout ou les Elder Scrolls, demandent énormément, énormément de temps si on a envie d'y jouer, et on peut y jouer bien plus de 2000 heures si on a envie. Et c'est pour ça que c'était déjà plus ou moins le même investissement qu'un MMO.
Après, ça dépend de la manière dont tu abordes le jeu. Moi, je connais des gens, ils ont fait la quête principale et voilà, ils sont passés à autre chose, quoi. Ce qui est bien avec les Elder Scrolls, justement, c'est que tu peux choisir. Tu choisis ton style de jeu. Moi, Morrowind, pourquoi j'y ai passé 2000 heures? Parce que, mine de rien, enfin, c'est le jeu auquel j'ai le plus joué dans ma vie, ce jeu-là. C'était un univers tellement, tellement unique. Franchement, c'est un jeu qui m'a fait voyager. C'est une sensation que malheureusement, je n'ai pas retrouvée par la suite dans les autres Elder Scrolls que je trouvais beaucoup plus générique.
Ah moi je pensais que t'avais que joué à Morrowind 2000 heures parce que t'avais pas d'argent pour acheter un autre jeu en fait.
Non, non. À cette époque-là, j'ai continué à jouer à d'autres jeux, etc. Effectivement, c'était comme un MMO, quoi. C'était un MMO dans le sens où j'y revenais régulièrement, quoi. J'y passais pas forcément des heures et des heures, mais pendant de très longues années. Pratiquement tous les jours, je faisais, je sais pas, une demi-heure, une heure de quête, tu vois, où je me baladais, où C'est un jeu qui m'a fait voyager, quoi.
Bah, je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce que tu viens de dire pour par rapport à Morrowind. Moi, ça me fait le même effet qu'avec Skyrim. Skyrim, j'ai acheté le jeu à sa sortie en novembre et j'ai toujours pas fini la quête principale parce que je la fais vraiment à la fin. Mais donc là, je fais les quêtes secondaires, j'améliore mon personnage, tout ça. Et le jeu, je l'ai toujours pas fini. Mais je sais qu'un jour, je reviendrai sur ce jeu-là. Là, je suis déjà à peu près à 100 heures de jeu. Mais bon, entre-temps, j'ai eu d'autres jeux à faire. Le jeu, je le laisse de côté et je le reprendrai plus tard. Et ça me dérangera pas de revenir plus tard. Donc, j'y reviens régulièrement, par petites sessions. Mais je sais qu'il y aura quand même, il y aura des petites périodes creuses où il y aura pas beaucoup de jeux qui sortiront. J'aurai toujours mon petit Skyrim sur lequel je pourrais m'amuser. Je sais que j'aurai encore des longues heures devant moi. Je suis à 100 heures et je suis toujours pas lassé de ce jeu.
Et toi, mamie, alors, est-ce que tu joues des centaines d'heures?
Alors, moi, Elder Scrolls, j'ai commencé avec le tout premier. Et j'ai
Ah,
vraiment...
t'as commencé avec Arena, c'est ça?
Arena, ouais, et j'ai
Ouais.
passé pas mal de temps sur Daggerfall aussi et Morrowind, je les ai tous faits, mais Morrowind c'est celui où j'ai le plus joué. Obligeons, j'y ai joué un petit peu, mais bon, il était loin d'être très bon, on va dire. Et Skyrim, je redécouvre pareil Elder Scrolls, et j'ai passé en tout des milliers d'heures aussi, mais c'était quand même plus. C'est ce qui est bien dans ce genre de jeu, et dans beaucoup de jeux, c'est, enfin, dans beaucoup de leurs jeux, c'est comme ça. On peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Moi, je sais que Skyrim, là, j'y ai joué une petite soixantaine d'heures. Enfin, une petite soixantaine, c'est petit pour un jeu comme Skyrim. Et j'ai dû faire trois quêtes de la quête principale, histoire de débloquer le cri principal. Et derrière, j'ai fait toutes les quêtes de guildes, etc. Et ça prend énormément de temps si on veut les faire. Et c'est ça qui est bien, c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut faire à peu près ce qu'on veut. Mais c'est vrai que le problème, ce que j'ai lu aussi dans les mémos, là je viens d'y repenser, c'est que chaque zone est nivelée. Donc on peut pas s'amuser comme ça à se balader un peu n'importe où.
Bon, après, l'équilibrage des zones hein, dans les Elder Scrolls, ça n'a jamais été leur fort. Hein. J'ai toujours trouvé que les gothiques étaient beaucoup mieux équilibrés à ce niveau-là. Il y avait vraiment des zones dans gothique où, voilà, si tu te baladais là-dedans, tu te faisais arracher la tête. Le problème des Elder Scrolls, en particulier de Morrowind, c'était qu'au bout d'un moment donné, tu étais juste intuable, quoi. Moi, je me rappelle, j'avais monté, sans tricher, je précise, à Morrowind, mon perso avait 100 partout en stats, sans tricher. Et j'y avais passé des heures et des heures, il était juste intuable mon perso quoi. Il y avait toutes les armes cachées du jeu, enfin bref. D'ailleurs, je voulais vous poser une question par rapport à cette annonce. Est-ce que comme beaucoup de fans, vous attendiez vraiment un Elder Scrolls qui reprenne les mécaniques du jeu solo? Moi, j'ai trouvé ça étonnant et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, en fait, pour moi, même si les Elder Scrolls sur certains points se rapproche d'un MMO, typiquement, enfin, le jeu peut-être qui s'axe peut-être moins sur la narration, mais qui propose 3 tonnes de quêtes, où tu passes des heures et des heures, etc. Mais d'un autre côté, je pense que certaines mécaniques qui font le cœur du jeu des Elder Scrolls sont fondamentalement incompatibles avec les MMO. Exemple, dans un Elder Scroll, le premier pécor que tu croises, s'il te prend envie de le buter et lui piquer tout son stuff, tu peux le faire. Il n'y a aucun souci. Et ça, dans un MMO, alors certes, tu peux tenter de le faire, mais bizarrement, j'ai du mal à croire qu'un studio comme Bethesda, qui a priori a l'ambition de faire un jeu avec des millions d'abonnés, va se risquer à faire un MMO hardcore où on peut piquer tout le stuff de n'importe quel joueur, par exemple. Et ça, c'est un exemple parmi d'autres. Par exemple, le fait de pouvoir voler n'importe qui. T'imagines, tu te balades dans la rue, t'as un pickpocket qui te pique tous tes sous. Moi, je trouve ça génial, hein. Mais je pense pas que ça soit compatible avec un MMO ayant les ambitions de chiffre d'affaires comme celui que souhaite Bethesda, par exemple.
Bah moi, pour répondre à ta question, je pense que bah Bethesda, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour pallier un petit peu ce système? C'est que tu pourrais faire ça uniquement au PNJ et aller voler, si tu veux, tu vas voler les maisons des PNJ, tout ça, mais que
Ah non,
bah
bon, je te laisse finir, mais je suis pas d'accord.
non, mais et de toute façon, dans toute façon, il y a une news qui a dit que le jeu le joueur du MMO Elder Scrolls Online ne pourrait pas avoir sa propre maison. Donc déjà pour le fait de si t'as peur de te faire voler, déjà t'as pas de souci à te faire parce que
Ouais, mais dans les Elder Scrolls, tu peux jouer des pickpockets
oui
aussi.
oui tu peux jouer les pickpockets, mais si ça sera dans les ça sera chez les PNJ, hein, ça sera pas chez toi.
Ouais, mais
Enfin,
c'est naze, ça serait
tu pourras pas
naze.
voler à un autre joueur, quoi.
Ouais, mais justement, c'est naze. Moi, un Elder Scroll où je peux pas défoncer n'importe quel perso, que ce soit un joueur, un PNJ, c'est pas un Elder Scroll. C'est un truc où on me dit, ouais, non, on me met une barrière à ma liberté de joueur. Et justement, la qualité principale d'un Elder Scroll, c'est que tu es libre de faire ce que tu veux. Et c'est ça qui, à mon avis, qui rend les Elder Scrolls fondamentalement incompatibles avec un MMO grand public. Parce que dans un Elder Scroll, tout l'univers évolue autour du joueur. Donc, le joueur peut se permettre de faire ce qu'il veut. C'est lui le héros et et voilà quoi. Alors que là, dans un MMO, moi je suis désolé, si on me dit tu peux pas rien faire à ce perso-là parce que c'est un joueur, bah tout de suite c'est une limitation que tu n'auras jamais dans un Elder Scrolls solo et c'est très frustrant, je trouve.
Bah, tu pourras toujours lui péter la gueule, mais tu pourras pas lui prendre son équipement. Sinon, à chaque fois, imagine, à chaque fois que tu te fais buter, tu dois tout récupérer. Ça va être un peu compliqué.
Bah non, tu fais un système, par exemple, je sais pas, hein, Evoland a trouvé un très bon système. Déjà, t'as des zones de sécurité où même si un joueur se fait attaquer direct, t'as la sécurité qui va lui tomber dessus. Et si tu veux t'aventurer dans les zones de basse sécurité, là, tu te fais exploser ton vaisseau. Et si tu veux récupérer ton vaisseau, bah écoute, il y a un système d'assurance dans le jeu, par exemple. Et si tu perds ton vaisseau, bah t'as payé ton assurance pendant des mois et on te rembourse le vaisseau. Alors, on pourrait très bien imaginer un système analogue où les joueurs peuvent récupérer leur armure à moindre frais, ou je sais pas, mais moi je pense qu'il peut très bien y avoir des idées à ce niveau-là, par exemple, tu vois. Ça leur coûtera de l'argent, mais sauf qu'au lieu d'avoir un malus XP, ils auraient un malus au niveau du pognon, enfin je sais pas, mais on peut très bien avoir des systèmes alternatifs à ce niveau-là, quoi.
Ouais, bah t'as qu'à proposer tes idées à BD là.
Bah, c'est pas mes idées, c'est celles de CCP, elles marcheraient bien. Et toi, Mamie, qu'en penses-tu?
Ben moi personnellement, comme j'ai dit, pour avoir joué énormément des MMO et très longtemps, c'est vrai que le problème de la liberté se pose, hein. On peut pas donner une liberté totale à 1 million de joueurs parce qu'il y a toujours des gens qui abusent. Mais pour arranger un minimum de liberté. Comme, je ne sais pas, moi, ben, si on perd pickpocket avec un autre joueur, l'argent serait créé en temps réel sur le jeu, par exemple. Et ça ne pénaliserait pas le joueur pickpocketé, entre guillemets, mais ça permettrait ben, de pouvoir simuler tout du moins ce genre de choses.
Attention, moi je ne parle pas de liberté totale. Je dis que on est libre de s'en prendre à un autre joueur, mais comme dans la vie réelle, chaque action a ses conséquences. Je veux dire, dans EVE Online, si t'as envie de pourrir les gens, tu peux le faire, mais derrière, va falloir gérer avec les corbeaux. Voilà, c'est chaque action a ses conséquences, mais tu es libre de les faire. Moi, je pense qu'il faut trouver l'équilibre entre la liberté du joueur et les conséquences que les actions vont avoir, c'est tout. Et pour moi, de toute manière, est-ce que un Elder Scroll où tu ne peux pas faire ce que j'ai dit, c'est vraiment un Elder Scroll? Pour moi, la réponse est non. Et du coup, le jeu ne m'intéresse pas parce que je ne retrouve pas dans ce jeu ce qui fait pour moi la quintessence d'un Elder Scroll. Voilà. Donc, c'en est tout, n'est-ce pas, pour l'actualité. Ah non, non, non. Une dernière chose avant de partir, n'est-ce pas? Nous avons une date pour la conférence Nintendo et malheureusement nous avons appris que ça serait le 5 juin. Je crois qu'on va souffrir, hein, messieurs.
Ça va être une longue journée.
Et une longue nuit.
Ah oui,
Ah oui, ça va être dur. En fait, il va falloir faire des micro-siestes,
ça.
ça va être terrible. Donc, c'en est tout pour l'actualité cette semaine. Nous allons passer à notre jeu du moment. Il s'agit de la version Xbox 360 d'un jeu dont je vous avais concocté le test dans ce même podcast, n'est-ce pas? Et ce jeu, c'est, mon cher ATH.
The Witcher 2 et Ant Edition sur Xbox 360.
Did you dream of the Wild Hunt again?
I get the feeling that dream's important. Running frantically through the forest. The Wild Hunt. They're the last things I remember.
You know each other?
Rather well. But he has amnesia. Fear a lot, Elm. I know Geralt. I know his weakness.
You will tell me everything you remember. The entire assault. And if I refuse?
They'll publicly gut you, skin you, and hang you. Just like that, for nothing. No, for Temeria.
Pas connu le premier sur console, malheureusement. Le deuxième opus est arrivé, rajoute un petit peu du contenu en plus, qui a été d'ailleurs mis à jour gratuitement pour les joueurs PC. Ce que j'ai à dire sur le jeu, c'est que graphiquement d'abord, il est très très beau pour un jeu 360. C'est sûr que c'est moins fin que sur un PC, mais bon, en même temps, c'est pas ce qu'on lui demande. Pour un jeu Xbox 360, vous allez le trouver très joli si vous avez jamais vu la version PC. Franchement, pour vous, le jeu sera très beau. Donc, nous incarnons dans le jeu un sorceleur qui est Geralt de Rive. Un sorceleur, c'est un chasseur de primes qui va tuer les monstres, qui a subi des transformations à l'époque par l'injection de drogue et vous êtes un peu un surhomme. Et ça se remarque pas au début du jeu, parce qu'au début du jeu, les monstres que vous allez vous rencontrer, ils vont vous éclater la gueule, ça je vous dis.
Ouais, alors justement, ça c'est la première question que je voulais poser, parce qu'on va souvent faire le comparo avec la version PC et voir les évolutions un peu qu'il y a eu. Et déjà, à ce niveau-là, donc d'après ce que tu me dis là, pour cette version améliorée, ils n'ont pas corrigé ce qui était, à mon sens, l'un des défauts principaux du jeu, à savoir que le jeu est beaucoup trop difficile au début, et qu'au contraire, il devient beaucoup trop facile à la fin.
C'est tout à fait ça. Au début du jeu, c'est assez compliqué. D'ailleurs, il faut faire attention parce que le jeu propose des sauvegardes automatiques, mais c'est que au début et à la fin de chaque quête. Ce qui fait, si vous faites une quête pendant plus de 2 heures, et que vous n'avez pas sauvegardé entre temps, et que vous faites éclater par un pauvre pecno qui arrive derrière un arbre et qui vous éclate, vous allez devoir reprendre depuis la dernière sauvegarde. Et même des fois, ça c'est un petit bug du jeu, c'est que des fois ça charge des sauvegardes mais qui datent de très très longtemps, donc il faut les effacer au fur et à mesure. Par exemple, moi j'étais au chapitre à l'acte 2 du jeu, et on m'a chargé une sauvegarde du prologue. Après donc, ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû aller l'en charger, et j'ai chargé ma partie qui était toujours sauvegardée, il y a pas de problème. Hein.
Ah donc ça, ouais, ça c'est un nouveau bug par contre, parce que ça, s'il était pas, hein. J'ai jamais eu ce problème là quoi. Sinon globalement déjà, j'avais envie de te demander, tu n'as pas lu les romans, t'as pas fait le premier jeu, c'est une question vraiment que je me posais en tant que personne qui a lu les romans et qui a fait le premier épisode. Est-ce que tu t'es pas senti un peu largué en jouant au jeu, quoi? Est-ce que t'étais pas un peu perdu dans l'univers? Est-ce que t'as bien compris un peu tout ce qui se passait? Parce que moi, ça me paraît un peu trop complexe pour quelqu'un qui ne connaît pas l'univers, quoi, en fait.
Bah alors, c'est sûr que au début, c'est très très compliqué. On connaît pas trop l'univers, qu'est-ce qu'on fout là, qu'est-ce qui s'est passé avant, pourquoi ça commence comme ça. Au début, on nous parle de la chasse sauvage, on se demande mais qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est quoi, c'est un groupe de pêcheurs, je sais pas. Franchement, on est là, on découvre, quoi, on sait pas du tout. Donc moi, ce que j'ai fait, et je conseille à tout le monde de le faire, c'est d'aller sur Internet, sur les forums de The Witcher 2, et il y a des gens qui sont, si vous demandez gentiment, qui vous résument l'histoire. Il y a même des topics déjà dessus qui résument l'histoire du premier, qui développent aussi l'univers du jeu, qui vous expliquent certaines choses que dans le scénario du 1, qu'est-ce qui s'est passé, les moments forts, les moments importants pour vraiment bien cerner l'histoire et l'univers. Ils nous détaillent aussi plusieurs choses, par exemple qu'est-ce qu'un sorceleur. Il faut vraiment se renseigner sur le jeu, parce qu'il y a vraiment plein de choses que sinon vous allez passer à côté, des histoires même par rapport au livre, Je me suis renseigné un petit peu par rapport à ça parce que c'est important parce qu'on nous parle de, dans le jeu, on nous parle de personnages qu'on ne verra jamais et on nous parle de ce personnage-là, on se demande qui c'est. Donc c'est vraiment, il faut vraiment se référer à l'histoire. D'ailleurs, sur la version Xbox 360, il y a un glossaire qui regroupe pas mal de mots-clés, par exemple les sorts solaires, les personnages qui sont tous détaillés les uns après les autres, les personnages principaux et secondaires, parce que sinon, si on n'a pas joué au 1, vous allez vraiment être largué, c'est très très compliqué.
Ok. Aussi, je voulais faire une petite précision. En fait, The Witcher 1 et The Witcher 2 ne sont pas liés scénaristiquement, je précise. Fondamentalement, il n'y a pas besoin de faire The Witcher 1 pour commencer The Witcher 2. Le truc, c'est que pour les personnes qui n'ont pas lu les romans, il est indispensable d'avoir fait The Witcher 1 avant, parce que, en fait, même si The Witcher 1 n'est pas lié scénaristiquement, il sert de présentation de l'univers, quoi. C'est un jeu qui a été conçu pour poser les bases de l'univers à ceux qui ne connaissaient pas la saga du sorceleur en roman. Mais par exemple, si vous avez lu les romans, mais que vous n'avez pas fait The Witcher 1, je veux dire, The Witcher 1, fondamentalement, il est dispensable à ce moment-là. Il y a certains choix dans le 1 qui vont avoir une incidence mineure dans le 2, mais bon, c'est pas très important. Je tenais à le préciser.
Non, mais ça c'est vrai, parce que l'histoire en elle-même, pour finir le jeu en entier, vous allez comprendre l'histoire assez facilement. C'est pas vraiment, il y a pas vraiment de subtilité du qui revient aux éléments antérieurs. Les seules choses qu'on va perdre, c'est vraiment parce que le premier Witcher, d'après ce que j'en ai entendu dire et que j'ai lu, c'est que ça mettait en place l'univers du sorceleur qui vous expliquait vraiment dans quel monde on vit, comment les différentes factions, etc. Là, c'est vraiment juste pour d'avoir fait le 1, c'est vraiment juste pour appréhender l'univers. Parce que là, si vous commencez le 2, on vous dit, voilà, vous êtes un sorceleur dans l'anime là, vous savez même pas ce que c'est. C'est juste pour ça, c'est juste pour les bases, en fait. C'est juste pour le 1, c'est comme si vous avez les bases de la mythologie de Witcher. Sinon, l'histoire du 2, vous pouvez très bien la faire sans avoir fait le 1, vous allez tout comprendre, il n'y a pas de problème. L'histoire est assez simple, son traitement. La chose qui change par rapport aux différents RPG, c'est que c'est un traitement très très mature du jeu. Je vous le dis clairement, dans le jeu, vous allez voir du sexe. C'est pas vraiment l'attrait du jeu, mais...
Oh yeah.
Vous allez voir des parties de jambes en l'air, des dialogues qui sont assez crus, des gens qui vont parler comme si vous parliez entre amis, et avec vraiment des fois des personnages qui sont assez crus, des gens qui sont assez grossiers. Par exemple, ce qui m'a marqué, ce qui m'a fait vraiment rigoler, c'est quand je me battais dans de l'auberge, et on faisait, vous savez, les petits combats de rue, là. Et que, au bout d'un moment, on entend derrière, je chope plus les couilles. Ouais, ça m'a fait un petit peu rigoler. Mais après, voilà, c'est vraiment un traitement mature de l'histoire. À tous les sens du terme, les dialogues sont très bien écrits. L'histoire est intéressante. Et, ouais, c'est vraiment un très très bon jeu sur ces points-là.
Aussi, je voulais te poser quelques questions au niveau des combats, et notamment, il y avait certaines améliorations qui me paraissaient indispensables. Notamment, sur la version PC, on avait un problème avec le système de lock dans les combats. Bon, je rappelle le système de The Witcher 2, hein, c'est un action RPG pur et dur. En gros, vous avez, pour vous rappeler un peu le background des sorceleurs, les sorceleurs, c'est des mecs qui combattent à la fois à la magie et à l'épée. Vous allez monter vos personnages et vous allez devoir choisir s'il est plutôt orienté magie ou s'il est plutôt orienté combat à l'épée. Et le truc, c'est dans les combats à l'épée, notamment, il y avait ce qu'on appelait le système de lock. Or, on avait un problème à l'époque sur la version PC, c'est que ça arrivait que le lock sautait, tu vois. Alors, est-ce que ce problème-là a été corrigé déjà ?
Ce problème-là a été corrigé parce que j'ai pas eu de problème de ce type en y jouant. Mais le problème qu'on aura, c'est vraiment, c'est que quand on joue, des fois quand vous tuez des ennemis pour looter leurs objets en fait, bah vous aurez un petit problème pour prendre l'objet en fait en question. Il y a un petit problème de ciblage à ce niveau-là. Mais en combat c'est pas gênant. Mais le seul problème qu'on aura en combat, c'est que comme on doit viser en fait avec la gâchette LT et on doit maintenir pour avoir la cible ciblée. Et avec le stick analogique droit, on doit tourner la caméra pour changer de cible. Mais quand on fait un combo en fait, bah c'est on n'a pas une troisième main qui pousse pour toucher le stick droit en même temps. Donc ça veut dire qu'il faut mieux se concentrer sur un ennemi, le tuer et après changer de prendre l'ennemi qui est le plus proche, l'attaquer et ainsi de suite. C'est-à-dire que si y a un ennemi qui vient par derrière, ça sert à rien d'essayer de croire que vous allez faire avant, devant, derrière, parce que vous allez vous faire prendre un sandwich et vous allez vous faire éclater. Ce qu'il faut, c'est donc, quand il y a un ennemi qui vient derrière, vous esquivez et vous concentrez sur le premier, et après, quand vous avez fini, bah, vous attaquez le deuxième.
Ouais, donc c'est un peu plus compliqué qu'avec le clavier et la souris quand même, quoi, à cause de la gestion du stick.
Voilà,
quoi.
C'est un peu plus compliqué. Mais sinon, le jeu, en général, mis à part le début du jeu, comme je l'ai dit, évidemment, après ça devient assez simple. On devient vraiment puissant surtout quand on augmente les caractéristiques à l'épée. On va pouvoir trancher des ennemis. On va vraiment sentir nos personnages évoluer tout au long du jeu. C'est vraiment appréciable. Ce qui est intéressant dans le jeu, donc, c'est que c'est un RPG à monde ouvert, mais ce n'est pas du tout la même chose qu'un Skyrim. C'est-à-dire que, en fait, ça.
Je suis pas tout à fait d'accord sur le fait que ce soit un RPG à monde ouvert, mais on y reviendra.
Bah, en fait, si, c'est un peu, on arrive dans un hub, en fait, dans une ville. On a des quêtes à faire, on peut choisir de faire la quête dans n'importe quel ordre qu'on veut, enfin les petites quêtes qu'on a annexes, on peut aller soit faire la quête dans la forêt, soit faire la quête dans les bars, etc. Mais sauf que ça se découpe en trois actes, plus le prologue. C'est beaucoup plus linéaire qu'un Skyrim, parce que il y a la narration qui est beaucoup plus mise en avant dans The Witcher, et on aura certainement des choix cruciaux à faire dans le jeu, qui ont vraiment une répercussion directe ou indirect sur plus ou long terme. Par exemple, moi, ce que j'ai fait, c'est au début du jeu, donc c'est le début du jeu, donc il n'y a pas de spoil. On est attaché on fait une sorte d'interrogatoire. Et au bout d'un moment, j'ai décidé d'attaquer la personne qui m'interrogeait pour essayer d'échapper de la prison. Ce que j'ai fait, donc j'avais soit ce choix-là, soit ce choix de coopérer en fait avec la personne. Ça a mis fin à ma partie directe. Tu vois, donc c'est vraiment la première fois dans un jeu où je vois que même dans les dialogues on peut mourir. Normalement dans les dialogues, si tu choisis d'attaquer, au pire ce qui va se passer, c'est que t'as raté et tu vas revenir et voilà. Mais là on peut vraiment avoir un game over en pleine discussion.
Ouais, t'as voulu jouer les héros et dans The Witcher on joue pas les héros.
Ouais, bah c'est un peu mon côté pragmatisme de Mass Effect.
Sinon, qu'est-ce que je vais demander? Ah oui, un des défauts majeurs par rapport au combat, j'y reviens, c'est qu'au début, il n'y avait pas de tutoriel.
Ah oui, bah.
Et t'étais un peu largué là-dedans, tu savais pas trop comment jouer, et puis démerde-toi, puis voilà. Et est-ce qu'ils ont mis enfin un putain de tutoriel au début du jeu?
Oui, ils en ont mis un tutoriel assez rapide à expédier d'ailleurs, qui explique en fait pas à pas les bases, le système d'inventaire vraiment vraiment détaillé. C'est un peu lourd pour un début de jeu, je trouve, quand même, parce qu'on commence et t'as 30 000 informations qui arrivent d'un coup. J'aurais préféré les avoir au compte-gouttes dans le jeu, enfin, mais c'est toujours mieux d'avoir un tutoriel que de pas en avoir du tout.
Ouais, parce que je peux te dire, c'est des compliqués. Hein.
Ouais, même avec un tutoriel, c'est un petit peu compliqué. Il y a des trucs qui sont mal expliqués un peu dans le jeu. Par exemple, je pense au système de mutagène on nous dit que les mutagènes peuvent sert à augmenter en fait nos caractéristiques quand on évolue. Mais c'est pas expliqué vraiment parce qu'au début, on colle plein de mutagènes, on dit ouais, putain, je vais évoluer vachement rapide et tout. Là, hein. Mais en fait, on peut pas les utiliser tout le temps. C'est certaines cases qu'on peut débloquer. Et voilà, donc au début c'est un petit peu un fourre-tout, un peu expédié à la va-vite, mais bon, les principales, on acquiert le principal, il t'explique le système de quête, comment ça fonctionne, voilà, après tu arrives dans une arène, il te montre le système de combat, pas à pas, au début tu rencontres un soldat, il te dit voilà le système de lock, enfin etc. Le tutoriel a été ajouté pour permettre aux joueurs d'appréhender cette version Xbox 360.
Aussi par rapport à l'évolution du personnage, je voulais te demander, moi je trouvais par exemple, tu vois, par rapport au pouvoir, grosso merdo, il y avait la moitié qui était utile et les autres que je n'utilisais jamais. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que, comme moi, t'as trouvé qu'il y en avait vraiment, c'était pas terrible, quoi?
Bah, moi je me force en fait un petit peu à utiliser vraiment tous les pouvoirs pour vraiment utiliser tous les styles de jeu pour voir celui que je préfère le plus. Mais c'est vrai que en fait j'utilise vraiment en fait sur les 5 signes qu'on a disponibles, je n'utilise vraiment que deux. J'utilise le signe de la boule de feu Ini et le style Queen qui est un bouclier. Après les autres
signes, c'est les deux styles, c'est les deux signes indispensables dans le
voilà. Et il y a aussi un peu le signe Art qui sert à paralyser les ennemis qu'on utilise plus ou moins que les autres. Mais après, le piège et le contrôle de personnage, je les utilise pas vraiment souvent. Je les utilise des fois de temps en temps quand pour m'amuser un petit peu. Mais c'est vrai que sur ce point-là, tu as tout à fait raison. Il y a des signes qu'on n'utilise pas trop. Mais bon, moi, peut-être que c'est...
Et par rapport au combat à l'épée, qu'est-ce que tu as pensé? Enfin, moi, ce que je trouvais très intéressant dans The Witcher, c'est que c'est vraiment, en tout cas au début, après c'est peut-être moins vrai, c'est la première fois que j'ai l'impression de jouer vraiment un escrimeur, quoi. Je veux dire, c'est pas un jeu où tu vas foncer dans le tas comme ça, comme un gros bourrin, sinon tu vas te faire étamer. Faut gérer plusieurs styles de combat, etc. Enfin, moi, j'ai trouvé les combats à l'épée d'une part vraiment stylés. Et d'autre part, je trouve que ça a la super pêche, quoi.
Alors, oui. Et ce que j'ai bien apprécié aussi dans le jeu, c'est vraiment quand tu vas rencontrer un nouvel ennemi que tu connais pas, c'est que tu dois en fait t'informer sur l'ennemi. Alors, il y a plusieurs manières, soit en achetant des livres ou bien soit en les terrassant au fur et à mesure. On découvrira certaines choses sur eux. Mais il faut vraiment enquêter sur certains ennemis pour savoir ce qu'ils craignent, quels sont utilisés. Parce qu'il y a des ennemis qui sont vulnérables à certaines choses et d'autres pas, comme la plupart des jeux. Mais il faut vraiment, dans ce jeu-là, j'ai trouvé qu'il fallait vraiment bien se renseigner sur la créature qu'on va affronter. Par exemple, au début du jeu, j'étais dans une forêt et j'affrontais des neckers. On dirait des espèces de petites bêtes des petits gnomes, des marécages.
Des espèces de gnomes zombies, en fait. J'ai décrit
voilà.
Comme ça.
Les marécages, donc tu viens, au début tu dis, ouais, il fait 2 mètres de haut, je vais l'éclater, tout ça, non, hein. Sauf que quand ils arrivent, généralement, ils sont 4, 5, 6, ils t'encerclent, et donc moi ce que je faisais, c'est que j'essayais de les taper, mais donc sur Witcher 2, il faut savoir qu'il y a l'attaque rapide et l'attaque lente pour les combats à l'épée, et j'utilisais les coups rapides pour les défoncer, genre je voulais les défoncer un coup, mais il esquivait à chaque fois mon attaque.
Mauvais choix.
Voilà. Et le résultat, c'est que je me suis mangé un game over par ces petites crottes là. Et donc j'étais vraiment déçu de mon skill de gamer. C'était au début, je découvrais le jeu, mais j'étais vraiment blasé. Et donc j'ai lu le tutoriel, enfin pas le bestiaire, et j'ai lu donc le decker, et j'ai vu que les attaques rapides étaient efficaces contre ce type d'ennemis, et que les attaques lentes, en fait, il les esquivait. Et donc là, après, j'étais content de tout ça, et je suis retourné donc aller les voir. J'ai dit, ah ouais, bon, d'enculé, venez. Voilà, après, donc, j'ai repris ma revanche. Et voilà, donc, il faut vraiment bien, c'est ça que j'ai vraiment trouvé très intéressant dans le jeu. Créer ses propres pièges pour piéger les ennemis. Utiliser des huiles pour tuer les spectres. Il y a une huile que vous mettez sur votre épée qui est efficace contre ce type d'ennemi. Ça, c'est vraiment appréciable. Ce que j'ai trouvé moins appréciable, c'est que voilà, c'est vraiment, on utilise ça au début du jeu. Après, on devient assez puissant pour ne pas les utiliser. Ils sont passés un petit peu.
Tellement surbalèze que ça gâche un peu la seconde partie du jeu, quoi.
C'est vrai que ça gâche un petit peu le plaisir du jeu, mais pour l'aspect roleplay, on les utilise toujours un petit peu pour voilà. C'est comme je disais tout à l'heure pour les pouvoirs que j'ai grignoté un petit peu à droite à gauche. Ça fait, voilà, des fois ça fait du bien un peu changer de style de combat, de pas foncer dans le tas comme un bourrin, parce que de toute façon dans le jeu là, si vous essayez, vous allez vous faire éclater, ça c'est sûr et certain, parce que les gens ils sont vraiment assez puissants. Mamie et l'ami.
Oui, moi j'avais juste une question, parce que ça fait longtemps que j'ai pas parlé.
en fait c'est juste parce que tu voulais parler, c'est ça.
non, c'est en fait la question, voilà, c'est moi The Witcher, j'ai très très légèrement touché au premier, mais vraiment très légèrement, par manque de temps tout bêtement, et j'ai pas pu me rendre bien compte du degré de d'épicness, on va dire, du jeu. C'est-à-dire que est-ce que malgré le fait que tu sois surpuissant à la fin et un petit peu sous-puissant au début, est-ce que t'as vraiment l'impression de faire des choses extraordinaires, parce que tu es censé jouer à un surhomme, et est-ce que ce surhomme te donne vraiment l'impression de jouer des aventures sur-extraordinaires, etc.
ATH ?
Alors ça, oui, parce que vraiment, quand tu joues à The Witcher 2, t'es vraiment, parce que tu vois, c'est vraiment un jeu à ambiance, déjà. Il faut savoir, c'est vraiment, quand tu joues, t'es pris par cet univers du jeu. Il t'attire, en fait. Quand t'as la manette en main, tu peux pas lâcher le pad. Et ça, déjà, c'est un point positif pour n'importe quel jeu. Quand tu joues, c'est pour les ennemis de base que tu vas faire des choses un petit peu basiques. Mais quand tu vas voir les quêtes secondaires sont assez simples et tout ça. Mais quand tu vas avancer dans la trame principale, l'implication du scénario, du joueur, de toi-même que tu mets dans le jeu, ça va vraiment faire que tu vas faire quelque chose de assez épique quand même, parce que tu as envie d'en savoir plus sur sur l'histoire du jeu. Et après, dans le jeu, il y a des créatures quand même qui sont assez balèzes, et qui mettront du fil à retordre. Le petit bémol, c'est que moi j'ai carrément augmenté ma compétence à l'épée, et j'ai eu au bout d'un moment débloqué quelque chose qui s'appelle adrénaline. Et adrénaline, ça permet de tuer des ennemis en un seul coup. Et j'arrive au bout d'un moment, et dans le jeu, j'avance assez longtemps, et je me bats contre une espèce de balrog de feu. Et j'ai utilisé cette technique contre lui, et ça l'a one shot en une attaque, alors que j'avais galéré pour depuis le
Oh
début.
putain, j'en avais chié avec ce boss en plus, si j'avais su j'en débloquais
Ah,
ça.
mais je te jure, tu débloques cette attaque. Voilà, maintenant, mais je l'ai utilisé comme ça au début. Je me dis, ouais, non, ça va lui faire perdre la moitié de sa vie, ou bien un quart. Ça va pas le tuer en un coup, mais ça l'a one shot.
Juste pour ajouter une chose par rapport au degré d'épicness, moi ce que je trouve extraordinaire dans ce jeu, c'est vraiment cette sensation de... Quand tu vois Geralt bouger, en fait, faut bien me le dire, les animations déchirent, quoi. T'as vraiment un personnage qui virevolte, qui te fait des parades, qui te fait des bottes. Le mec l'animation est fluide. T'as vraiment l'impression de jouer un épéiste qui déchire sa race, quoi. Tout simplement.
Et il a la classe aussi.
Mamie?
Oui, toujours des questions parce que j'adore The Witcher, j'adorerais connaître The Witcher mieux. Est-ce que au niveau de tes compétences, etc., j'ai cru comprendre qu'elles étaient pas mal. Il y en avait un nombre assez conséquent.
Pour être précis, donc tu as trois arbres, si je me souviens bien,
Quatre,
quatre arbres, pas
alchimie aussi.
quatre arbres,
Ouais,
oui,
il y a
c'est vrai,
alchimie.
effectivement. Donc il y a quatre arbres, et donc ça se présente sous la forme d'un arbre, hein, et tu as, à chaque niveau, tu as des compétences. Et donc tu as le choix, soit tu débloques une nouvelle compétence, soit tu augmentes une compétence que tu as déjà. Et ça va vraiment l'augmenter, quoi. Je veux dire, quand tu augmentes, en général, tu vois la différence, quoi. Même si je trouve que la différence, elle se voit beaucoup moins que dans le premier, où là, vraiment, tu avais une évolution assez impressionnante. Mais voilà, c'est un jeu où il va falloir que tu fasses des choix, et il y a vraiment pas mal de compétences. Bon, sauf qu'encore une fois, moi, là où j'aimerais un peu nuancer, c'est que je trouve malheureusement que toutes les compétences ne sont pas forcément utiles, et que on a vite fait d'augmenter ses compétences à l'épée, parce que l'épée, c'est bourrin, quoi.
Ah bah moi c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Bah j'ai augmenté vraiment les compétences à l'épée et un peu les sorts que j'aimais bien comme Queen et Innie que je parlais tout à l'heure. Donc Innie c'est la boule de feu qu'on utilise qui fait quand on l'augmente au niveau maximum ça vraiment embrase tous les ennemis, ça laisse des flammes par terre, c'est vraiment appréciable. Et l'épée parce que je trouve que voilà Geralt quand il se bat il a vraiment la classe. Et voilà, donc moi c'était l'arbre principal vraiment que sur lequel j'ai pu augmenter mes compétences. Et c'est super intéressant de jouer un épéiste vraiment balèze. Le seul petit bémol, comme je t'ai dit, c'est cette compétence adrénaline qui fait quand t'arrives à un haut niveau du jeu, bah tu peux one shot vraiment tous les ennemis.
Mamie?
Oui, donc est-ce que c'est un jeu où tu vas finir par avoir tout, ou est-ce que c'est un jeu plus à la Skyrim où tu as vraiment intérêt à te spécialiser dans un choix pour éviter d'avoir un personnage trop faible à la fin parce que tu as voulu équilibrer?
Bah moi déjà pour avoir tout tu pourras pas débloquer toutes les compétences, ça c'est impossible. Il faudra vraiment que tu te spécialises dans une compétence. C'est pour ça que j'ai choisi de me spécialiser dans l'épée, parce que je savais que dès le début que je pouvais pas avoir toutes les compétences disponibles dans le jeu. Donc il faut vraiment que tu choisisses un type de spécialité et tu grignotes un tout petit peu à droite à gauche pour débloquer par exemple au début la chimie. Ce que j'ai fait c'est que tu débloques les ingrédients que tu récoltes, ça sera en double. Et voilà, mais tu pourras pas avoir full partout. Ça c'est impossible. Surtout que tes compétences, vraiment les uploader pour qu'elles deviennent plus puissantes, ça sera pas possible.
Je précise, contrairement à Morrowind où il est effectivement possible d'avoir 100 partout, là ce n'est pas possible d'avoir toutes tes compétences à fond. C'est à un moment donné il va falloir faire des choix. Bon, moi personnellement j'ai fait un perso équilibré que à l'épée en magie parce que je trouvais malheureusement que à l'épée à haut niveau c'était trop beaucoup trop puissant et donc je préférais faire un perso voilà quoi, qui est équilibré dans les deux, ça m'a donné peut-être plus de challenge, mais au moins voilà quoi, j'avais du challenge à la fin du jeu quoi.
Moi, comme c'était la première fois que je faisais le jeu, je savais pas que j'allais m'attendre à ce résultat. J'ai été vraiment aussi puissant en me basant sur l'épée. Je l'ai appris vraiment à la fin du jeu quand même. Parce que entre-temps, j'ai aussi augmenté un peu mes compétences. Mais c'est vrai que quand tu débloques vraiment l'épée, c'était vraiment trop trop puissant.
Alors, bon, par contre, je voulais quand même apporter un aspect du jeu qui me paraît très important, c'est les conséquences des choix. Alors, on sait, Witcher, c'est un jeu un peu comme Mass Effect, je trouve, où les choix ont des conséquences. Et j'aimerais te demander à TH ce que tu en as pensé. Est-ce que tu penses que tes choix ont... Est-ce que tu as la sensation que ce sont tes choix qui ont prévalu et qu'on a pris en compte tes choix?
J'ai envie de dire oui et non.
Ok,
Parce
précise.
que ce que j'ai envie de dire, c'est que voilà, donc on a des choix vraiment principaux qui font vraiment principes cruciaux pour la trame principale de l'histoire, à savoir si on décide d'épargner ou pas tel personnage, de rejoindre telle ou telle faction, entre guillemets. Voilà, ça c'est des choix vraiment qui vont apporter vraiment un gros plus au scénario. Mais pour les quêtes secondaires, des fois, on aura, si on veut, on pourra choisir d'aider ou pas ces personnages-là. Ce qui est intéressant, c'est que des fois, c'est que tu vas aider un personnage et que dans 2 actes après, tu vas pouvoir le retrouver, il va te dire merci de m'avoir aidé, tiens, je te donne un cadeau. Mais des fois, ça va être juste anecdotique, tu vas aider un personnage, ou bien si tu choisis de le laisser se faire agresser, ça va pas changer grand-chose à l'histoire, en fait. Mais c'est vrai que voilà, il y a des choix qui sont importants, on voit vraiment la différence.
Alors dernière question, bon, en tout cas ce sera la dernière en ce qui me concerne. L'un des défauts majeurs de The Witcher 2, c'était son acte 3. Un acte 3 qui était beaucoup, 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 beaucoup trop court. Est-ce que tu as eu la sensation, parce que je sais qu'ils ont rajouté des quêtes dans l'acte 3, mais ce que je ne sais pas, c'est si du coup ça comble cette sensation d'avoir une fin qui est super rushé.
Alors, oui, la fin est super rushée, je la trouve encore. C'est comme toi, vraiment. C'est exactement la même fin que sur PC. Parce que vraiment, les quêtes, en fait, ils ont rajouté pour cette R7 édition, ils ont rajouté quelques quêtes annexes dans tous les actes. Mais c'est vraiment des quêtes annexes. Donc, la fin arrive vraiment assez rapidement à l'acte 3. Mais bon, c'est un peu dommage. On peut reprocher ça, c'est vrai. Mais l'aventure du jeu est tellement passionnante. Les 2 premiers actes sont assez longs, ce qui fait que on pardonnera ce petit défaut assez facilement.
Attends, je crois pas là. Tu pardonnes pas à Mass Effect, mais tu pardonnes à The Witcher?
Je pardonne pas à Mass Effect parce que Mass Effect, tu vois, c'est un jeu que t'as fait sur 3 opus. C'est pas pareil, je trouve. Je suis pas autant déçu en tout cas, que de Mass Effect parce que je me suis pas autant impliqué dans le jeu. Et vraiment, The Witcher 2, c'est tellement un peu comme Mass Effect, c'est vraiment un jeu à ambiance. C'est vraiment la qualité de l'écriture. Et ça, et d'ailleurs, c'est encore plus que dans Mass Effect, c'est vraiment très très bien amené. Comme je vous l'ai dit, les personnages sont vraiment très bien travaillés, avec chacun une personnalité très bien fouillée. Voilà, un contenu mature. Pour une fois dans un jeu vidéo, on sait que on voit que voilà, que le personnage principal en l'occurrence exprime des désirs vis-à-vis des femmes, et donc voilà, c'est
C'est
important
un homme
de je
normal,
trouve que
quoi.
voilà, c'est pas un mec qui c'est pas comme dans GTA où tu vas voir la voiture bouger, enfin, même si voilà, donc c'est pas ce qui fait l'intérêt du jeu, mais vraiment de voir des dialogues crus, très très bien écrits, c'est vraiment très très appréciable.
Witcher 2, c'est l'un des rares jeux où il y a un perso, j'avais vraiment envie de le buter, quoi. C'est une saloperie, mais un être abject, mais tu prends du plaisir à le zigouiller, quoi.
Ah, ça fait du bien, ça fait
Ah ouais,
du bien.
ça soulage.
Et donc, tu as terminé avec la question?
Moi, j'ai rien à rajouter.
Mamie l'ami?
Bah écoute, non, si peut-être l'ergonomie générale, parce que je sais qu'il y a eu énormément énormément de plaintes sur les menus, etc. par rapport à la version PC.
Au moins, en tout cas, je le dis, la version PC, les menus étaient à chier, et que ce soit au pad ou à la souris.
Voilà, donc Comme
donc,
on, pardon, je finis vite fait, c'est parce que comme on pensait que c'était pour qu'il avait été développé d'abord pour console, voilà, je voulais savoir ce que t'en penses.
C'est vrai que ça se voit que ça a été porté pour la console. C'est clair et net, c'est flagrant.
Mais il me semble qu'ils ont changé les menus encore. C'est une précision.
D'après ce que j'ai vu, c'est exactement les mêmes que sur la version PC. À part juste, il y a sur la version Xbox, il y a moins de détails. Par exemple, quand tu affiches un menu, il y aura par exemple sur la version PC, tu auras toutes les caractéristiques de l'arme, tu auras les dégâts, la valeur, et tu auras les caractéristiques plus 10 en vitalité, résistance au poison plus 15. Donc là, sur la version Xbox 360, c'est vraiment le même menu, mais il y aura vraiment par exemple que l'attaque de l'arme, par exemple 30 plus 10, et après pour voir le
pour les détails, c'est complètement con. C'est complètement con.
Ouais, sur la version Xbox 360, ils ont retiré plein de choses, d'ailleurs, comme le fait que Geralt, par exemple, quand il médite, on voit plus l'animation qu'il faisait sur PC. Là, on voit, quand tu médites, il passe directement à l'aube, et voilà, on voit pas le temps défiler autour de nous, tout ça. C'est vraiment, ils l'ont enlevé, je sais pas, la Xbox était capable quand même de voir Geralt se baisser pour faire défiler le temps. Enfin, voilà, quoi, c'est pas vraiment un truc, même si on peut pas le faire aussi rapide que sur PC, on pourrait le faire de toute façon un peu à la Skyrim, tu sais, quand tu passes le temps en extérieur, tu vois les nuages qui bougent, tout ça. C'est un petit détail. Après, pour revenir sur cette version Xbox, vraiment, alors il y a l'aliasing, un petit peu de clipping. Il y a aussi cet effet de, tu sais, quand l'écran est coupé des fois en deux. On a vraiment ça qui... Ça nuit pas vraiment à l'expérience du jeu. Le gameplay est un peu dur à prendre en main au début du jeu, mais ça va très vite. On s'y fait petit à petit. Le scénario du jeu est vraiment assez bon, très bien écrit. C'est surtout les personnages qui sont très bien travaillés les uns après les autres. L'ambiance du jeu, tout ce qu'il y a autour, l'univers, tout ce qui se rapporte à la mythologie de The Witcher. Est vraiment très excellent. Les musiques sont grandioses. Jouez-y au casque parce que vous allez en prendre plein les oreilles, avec des thèmes épiques quand il faut, de l'action quand l'action est soutenue. C'est vraiment un bonheur. La durée de vie du jeu est assez bonne, assez conséquente, surtout si vous faites toutes les quêtes annexes. Le seul bémol, voilà, comme on en parlait, c'était l'acte 3 qui se finit assez rapidement, alors malheureusement, par rapport aux deux premiers actes. Sinon ça reste un très grand jeu. Donc ce jeu-là, je le conseille à tout le monde, tous ceux qui aiment les RPG, les jeux avec une aventure avec une aventure vraiment intéressante. C'est pas comme dans Skyrim quand on parlait, c'est pas vraiment un jeu bac à sable, mais c'est vraiment on joue une histoire. On incarne un personnage, c'est pas on crée un personnage, c'est vraiment le personnage, il nous a incarné.
C'est important de le préciser, je pense. Vous êtes Geralt de Rive, hein, on est d'accord. Vous jouez le personnage écrit par André Chapowski, l'auteur des romans. Vous ne jouez pas votre personnage. Il faut que ce soit très clair pour tout le monde, ça, par contre.
Et c'est un personnage en plus très cynique, qui sait que voilà, dans le jeu, il y a beaucoup d'humour.
Avec sa gueule un peu cassée, il a trop la classe.
Voilà, et c'est avec une voix bien rauque en français. C'est un jeu, mature, vraiment avec une qualité de scénario assez bien faite. Et ce qui est important aussi, c'est donc je vous disais que c'est un jeu que je conseille à tout le monde, mais pas forcément, en fait, il faut pas le mettre entre toutes les mains parce que il y a du contenu assez cru. Donc il faut être majeur, les enfants.
Mamie, a quelque chose à ajouter?
Écoute, non, ça a l'air intéressant. À part ça, j'ai rien à rajouter.
Ah oui, moi j'ai quelque chose à rajouter par contre. C'est comme si on avait un mini collector en fait quand on achetait le jeu. Déjà, premièrement, le jeu il coûte 10€ moins cher que tous les autres jeux neufs en magasin. Vous avez un livre, un petit livre qui résume toutes les quêtes du jeu, plus la bande sonore du jeu. Et donc je tenais à féliciter CD Projekt pour cette initiative. Ça fait vraiment plaisir de voir des éditeurs qui ne prennent pas les gens pour des cons. Et j'aimerais bien que d'autres développeurs suivent le même chemin.
Ok. Bon, c'est tout pour notre jeu du moment, cette semaine. On va passer vite fait au point culture, parce que mamie doit s'en aller. Le point culture, cette semaine, c'est un visual novel. J'innove. Ce visual novel est sorti très récemment sur Steam, et ça s'appelle Analog A Hate Story. Alors, Analogue, pour vite vous présenter un peu ce que c'est, donc je vous l'ai dit, c'est un visual novel. Et pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un visual novel, alors pour vous donner une image, imaginez une espèce de livre dont vous êtes le héros. C'est une histoire interactive, quoi, pour résumer. C'est sorti très récemment sur Steam. C'est disponible, alors je sais plus exactement à quel prix, je crois que c'est 10 euros. Je vous avouerai que ça part un peu cher quand même pour ce que c'est. Pour vous présenter un peu l'histoire de ce visual novel, vous allez en fait incarner une espèce d'archéologue du troisième millénaire, n'est-ce pas ? En fait, vous êtes un archéologue qui va enquêter sur un vaisseau qui avait disparu depuis de nombreux siècles et qui date en fait de l'ère d'avant les réacteurs qui vont plus vite que la lumière. Vous êtes envoyé là-bas et votre mission, bah, c'est tout simplement de découvrir pourquoi ce vaisseau a disparu, pourquoi il n'y a pas de survivants, pourquoi on n'a plus entendu parler du vaisseau, etc. Bon, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà vu un ordinateur sous MS-DOS ?
Oui.
Vous tapez des lignes de commande, tout ça. Bah, c'est un peu ça le début d'Analogue. En fait, tu débarques, tu as la liste des commandes que tu peux utiliser, et en fait, il va falloir que tu tapes dans l'interface les commandes pour rétablir la connexion avec le vaisseau, pour rétablir l'intelligence artificielle du vaisseau, etc. Et ça, j'ai trouvé, franchement, ça n'en fait pas un jour, on est d'accord, mais j'ai trouvé que ça donnait un côté interactif qui renforçait énormément l'immersion du jeu. D'ailleurs, tu vois, j'ai dit jeu. C'est... Enfin, non, clairement, ce n'est pas un jeu, mais je pense que s'ils avaient fait un effort au niveau de ce genre d'idée, ça aurait vraiment pu faire un très très chouette jeu, quoi.
T'as dit jeu parce qu'à cause de l'interactivité, c'est ça ?
Sans spoiler, à un moment donné, ils vont utiliser ce système de ligne de commande pour introduire une mini-séquence de gameplay, et c'est à peu près la seule séquence de gameplay, en fait. Bon, contrairement à beaucoup de visual novels, ce que je trouve dommage déjà, c'est que ça manque justement de visuel. Tu vois, ça s'appelle visual novel, mais je veux dire, à part le dessin censé représenter une image de l'intelligence artificielle, en gros, il n'y a rien. Le reste, c'est c'est l'interface et le texte, quoi. Donc, pour un visual novel, moi, je m'attendais, tu vois, genre, je sais pas, dans un vaisseau... Tu pouvais, par exemple, avoir des vidéos d'archives. Il n'y a rien d'autre dans les archives, quoi. C'est que du texte. Alors, certes, le fait qu'il n'y ait que du texte, ça permet de laisser naviguer son imaginaire, n'est-ce pas ? Petite précision par rapport au titre. Pourquoi ça s'appelle Analogue The Hate Story, n'est-ce pas ? En fait, au départ, tu vois le quotidien des gens. Tu découvres la société, enfin... Et au fur et à mesure, tu découvres qu'est-ce que c'est cette société, en fait. Et tu te rends compte comme ça faisait des siècles que les mecs apparemment dérivaient dans leur vaisseau colonial, ils avaient complètement perdu, par exemple, la notion de technologie, tu vois. Parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, pour une raison qu'on ignore, il y a eu un incident dans le vaisseau, et que, ben, ils ont perdu tout leur savoir. Et en gros, à part l'intelligence artificielle du vaisseau, personne n'a une foutre idée de comment fonctionne le vaisseau là-dedans, quoi. Et tu découvres ça au fur et à mesure, et tu découvres la société qui s'est construite derrière, tu vois. Et au fur et à mesure, plus tu vas creuser, plus tu vas découvrir un background super glauque et super sombre. C'est une société tellement arriérée, notamment au niveau du traitement des femmes, t'en arrives à être dégoûté de ce que tu lis, quoi. Et ça, franchement, c'est très très fort.
Et bah moi en fait ce que tu es en train de me parler là, ça me rappelle ça me fait penser en fait à un certain Metallica Solid Digital Graphic Novel en fait qui retrace les événements de Shadow Moses du premier MGS et en fait c'est une bande dessinée interactive sur en style manga et avec quelques sur PSP en fait avec quelques idées d'interaction interactive à l'intérieur de la narration du jeu. Par exemple, quand Snake regarde quelque part, on peut appuyer par exemple, sur ses jumelles pour voir ce qu'il regarde. En fait, on va voir directement ce qu'il va voir dans ses jumelles. On pourra changer deux, trois trucs, par exemple, pour le codex, etc. Mais voilà, c'est les seuls, à peu près, il y a quelques petites subtilités par rapport à ça, mais c'est pas un jeu. On rejoue, en fait, on relit Metal Gear Solid dans un style manga. Le premier, et voilà, l'histoire on la connaît déjà, mais ça fait plaisir de d'avoir ça. Et donc ce que tu es en train de me dire, ça fait vraiment penser à cette bande dessinée.
Petite précision, alors par rapport à certains twists du scénario que je ne décrirai pas ici, c'est vraiment un visual novel où tu vas être amené à faire des choix. Et ce que j'ai trouvé excellent, c'est que j'ai un moment donné, tu vois, je me suis posé et je me suis dit merde, là qu'est-ce que je fais? Parce que vraiment, tu vas découvrir des choses dans le background, etc. Et tu vas découvrir le passif de ces personnages, et en fonction des choix que tu vas faire, en fait, tu vas porter un jugement de valeur sur les choix qu'ont fait ces personnages à l'époque.
Donc, est-ce que le scénario t'a vraiment pris au trip alors?
Alors, fondamentalement, le scénario, il n'est pas. Je veux dire, il est cousu de fil blanc, hein. On va être très honnête. Les quelques twists qu'il y a, tu les vois venir à 10 km, pour peu que tu suives un peu ce qui se raconte. Tu as très clairement une très bonne idée de pourquoi le vaisseau a fini dans cet état, on va dire. Mais après, j'ai pris énormément de plaisir à découvrir l'histoire de ces gens qui ont peuplé ce vaisseau, et de découvrir l'histoire de leur décadence. Et même l'univers qui est décrit, je l'ai trouvé excellent. J'aimerais bien, tu vois, faire une partie de jeu de rôle. Dans un univers comme celui-là, je pense que ça pourrait vraiment être pas mal, quoi.
Ouais, mais donc l'histoire en elle-même c'est une chose, mais si l'univers du jeu t'a attiré tout ça, donc ça veut dire que t'étais vraiment plongé dedans, donc t'avais envie de quand même d'en découvrir un peu plus.
Bah, en même temps, si tu veux, comme c'est essentiellement basé sur du texte, cette expérience. L'histoire quand même a son importance, quoi. Si l'histoire était mauvaise, je veux dire, alors je me rappelle plus exactement combien de temps j'ai passé là-dessus. Je pense que c'est assez court, hein. Ça doit être 3 heures ou un truc comme ça. Si l'histoire te prenait pas au trip, tu vois, derrière l'univers il découle de l'histoire, quoi. Donc de toute façon, à un moment donné, l'un lié à l'autre, quoi.
Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire, c'est parce que c'est comme maintenant, tu vois, on voit qu'il y a beaucoup de, tu sais, il y a beaucoup de jeux qui ou de films qui sont repris un scénario classique, par exemple, je sais pas, par exemple, on va dire n'importe quel film, tu vois, le Seigneur des Anneaux, tu vois, c'est l'histoire, elle est assez classique dans le fond, c'est des mecs, voilà, ils veulent sauver le monde, etc., etc. Mais par exemple, ce qui fait qui est intéressant dans l'univers, c'est les personnages. Et voilà, c'est ça qui te fait que tu t'attaches un peu plus par exemple, au Seigneur des Anneaux. Et bon, il y a Bilbo le Hobbit qui va sortir et tu vas pas aller regarder parce que t'aimes pas le personnage du Bilbo. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais. Donc bon, quoi qu'il en soit, très clairement, si vous avez envie de découvrir une histoire qui vous prend au trip, de découvrir un univers assez original, moi je vous recommande Analyze the History. Le seul reproche vraiment que j'aurais à lui faire, outre effectivement ce manque de visuel, encore une fois pour un visual novel, moi je trouve ça très dommage. Ce que je lui reprocherais aussi, c'est son prix, très clairement. Moi je trouve que quand même ça fait un peu cher pour ce que c'est, quoi. J'ai vu des choses, j'ai vu des visual novels gratuits, tu vois, qui proposaient plus de visuels, qui avaient une histoire tout aussi bien écrite. Et que pourtant ils n'étaient pas vendus une dizaine d'euros, quoi. Donc bon, voilà. Mais ça reste une très bonne expérience. Si vous n'avez pas peur d'investir, bah allez-y, quoi. Et ben voilà, c'est terminé pour les podcasts cette semaine. On va pouvoir libérer Mamie. Rendez-vous la semaine prochaine, en espérant que la police londonienne n'aura relâché Mordren, n'est-ce pas?
Encore une fois.
Donc nous allons voter, n'est-ce pas? Allez, à la semaine prochaine. Ciao!
Salut!
Salut!